Je ne sais pas quel est mon problème mince alors, je me sens tellement mal. Dieu, j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne prier pour moi. Je ne comprends pas pourquoi je me sens tellement mal. Comprendre n'est pas aussi difficile que ça si vous commencez à écouter Dieu. Une pensée errante, qui erre un peu partout et ne peut se concentrer sur rien, n'est pas de Dieu. Ecclésiaste 5.1 dit « Surveille tes pieds en accordant ton attention à ce que tu fais ». Maintenant, le mot « errer » veut dire se déplacer sans but, traîner, déambuler, flâner, aller dans un chemin indirect ou ne pas suivre un rythme ou être peu clair. Quand nous laissons notre pensée errer un peu partout, nous désactivons en fait notre pensée. Et Dieu veut vraiment que notre pensée nous aide dans tout ce que nous faisons dans la vie. J'ai remarqué que si je me concentre sur ce que je fais, même quand j'écris, mon écriture s'améliore. Mais si j'écris en pensant à autre chose, mon écriture devient peu soignée. Dieu nous a créés de façon à ce que nous puissions nous concentrer et faire attention. Eh bien, pour ce faire, nous devons ralentir. Et la plupart de vous vont dire « je suis trop occupé ». Le rythme de la vie est trop rapide, mais vous savez quoi, nous ne devons pas laisser la vie nous gérer. Nous devons apprendre à diriger et à gérer nos vies et à arrêter de laisser la vie nous gérer. Si vous êtes trop occupé, supprimez des choses de votre programme. Si votre rythme est trop rapide, ralentissez. Eh bien, cela peut signifier ne pas faire tout ce que vous voulez faire. Vous ne pouvez pas jouir de tout ce que vous faites si vous n'y accordez pas votre attention. Nous vivons dans une époque de distraction. Marc 4, versets 18 et 19. Puis nous allons voir un autre verset, le verset 24 qui est très bon. Il s'agit de la parabole du semeur. Le verset 18 dit « Et ceux qui sont semés dans les épines sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu, mais les soucis du monde, les distractions du siècle, le plaisir et la jouissance et la fausse séduction et la tromperie des richesses, et le désir irrésistible des autres convoitises se glisse et étouffe la parole et la rendent infructueuse. » Donc chaque fois que vous essayez de passer du temps avec Dieu, vous aurez des distractions. Avez-vous remarqué tous les trucs qui tournent mal quand vous essayez de passer un moment avec Dieu? Je me demande quel genre de choses vous avez dû surmonter pour venir ici aujourd'hui ou hier soir. Vous devez être très déterminé, vous devez décider et rester décidé, car nous devons comprendre que nous avons un ennemi. Il ne veut pas que nous apprenions la parole de Dieu, et même si vous allez à l'église, il ne veut pas que vous prêtiez attention à ce que vous écoutez. Il se fiche pas mal que votre corps soit là tant que vous n'êtes pas là. Amen. Donc pendant que je prêche aujourd'hui, n'allez pas vous acheter un hamburger, n'allez pas vous acheter un café Starbucks, ne quittez pas, car je travaille trop dur pour vous aider et non pas pour que vous alliez ailleurs. Voyons le verset 24. « Et il leur dit, faites attention à ce que vous entendez, car la mesure, j'aime ça, car la mesure de pensée et d'étude que vous donnez à la vérité que vous entendez sera la mesure de vertu et de connaissance qui vous reviendra de nouveau. » En d'autres termes, l'écouter une seule fois va nous aider, mais ça ne va pas nous aider comme si nous méditions là-dessus maintes et maintes fois. Or, les chrétiens aussi ont tendance à craindre le mot « méditer », parce qu'il est maintenant lié aux religions et aux cultes orientaux et même aux choses du genre Nouvel Âge. Mais c'était d'abord la parole de Dieu. Arrêtons de donner les bonnes choses à l'ennemi et d'en avoir peur. Vous pouvez vous asseoir et méditer, vous asseoir et fermer les yeux et penser à la parole de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Christ. Dieu me réserve un avenir merveilleux. Quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui. Je suis régénéré. Dieu m'aime vraiment et inconditionnellement. Et puis, si vous voulez vraiment en profiter, vous pouvez recommencer de nouveau. Je suis la justice de Dieu en Christ. Dieu m'aime vraiment. Vous pouvez vous asseoir là et vous pouvez penser à cette seule chose pendant 5 minutes. Je suis juste devant Dieu. Juste devant Dieu. Je suis juste devant Dieu. Je suis juste devant Dieu. Et puis, tout d'un coup, une flèche est lancée. Oui, tu fais beaucoup de mauvaises choses aussi. Je ne fais pas en ce moment à ce que je fais demain. Je suis la justice de Dieu en Christ. Et chaque fois que vous faites ça, vous rendez le sillon un peu plus profond, et un peu plus profond, et un peu plus profond. Mais je peux vous dire honnêtement, les chrétiens ont peur. Beaucoup de chrétiens, pas tous les chrétiens, mais beaucoup d'entre eux ont peur du mot médité. Non, mais quand j'étais à l'église que j'ai fréquentée pour de nombreuses années, j'ai vraiment acquis une bonne base sur le salut, mais je n'avais vraiment aucune victoire dans ma vie. Non, mais si j'entendais le mot méditer, je croyais tout de suite que c'était un culte. Nous devons apprendre aux gens à faire ce truc. Vous pouvez renouveler votre pensée en pensant à la même chose maintes et maintes fois, et si vous pensez ce que Dieu pense, vous aurez ce que Dieu veut que vous ayez. Allez maintenant, rendez gloire à Dieu. Détournez-vous de tout ce qui vous détourne de Jésus. Détournez-vous des distractions. Et laissez-moi dire ceci. Une seconde me suffit. Une des choses que le diable utilise pour vous distraire de Dieu plus que toute autre chose, c'est de marteler votre pensée avec des accusations sur tout ce qui ne va pas chez vous. Chaque fois que le diable vous rappelle quelque chose qui ne va pas chez vous, fixez vos yeux sur la croix et dites « Je suis reconnaissant parce que Jésus a déjà payé ça et je suis pardonné et régénéré. » Le message de l'Évangile est la meilleure nouvelle dans le monde entier. Il n'y a pas une nouvelle qui soit aussi bonne que notre bonne nouvelle. Maintenant, nous allons parler un peu du chapitre 10 du livre, et c'est à propos des raisonnements errants. Nous allons parler des raisonnements de la pensée errante. Et la raison pour laquelle c'est important de parler du raisonnement est que 2 Corinthiens 10 dit « Nous renversons les imaginations, les raisonnements et les théories, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Nous devons faire attention aux raisonnements excessifs. Pourquoi ? Parce qu'il nous mène à la confusion et parce qu'il nous éloigne aussi, dans bien des cas, du moindre discernement et nous finirons par désobéir à Dieu. Si vous êtes trop étourdi, ou ce que j'appelle avec amour une personne bouchée, je l'appelle avec beaucoup d'amour une personne bouchée. Cela signifie que vous vivez d'après votre pensée et que vous ne vérifiez pas les choses avec le Saint-Esprit. Or, nous ne sommes pas appelés à ne jamais penser aux choses. C'est bon de penser aux choses, mais j'ai une règle pour ma vie que je vais partager avec vous. Je peux penser à quoi que ce soit, je peux méditer sur quelque chose, je peux douter de quelque chose, je peux essayer de comprendre quelque chose jusqu'à m'y perdre, et à l'instant où je m'y perds, c'est signe que je suis allé trop loin et c'est là que j'arrête. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. J'ai un problème dans ma vie. Pourquoi ceci est arrivé? Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé. Pourquoi m'est-il arrivé à moi? Pourquoi fallait-il que ça arrive maintenant? J'ai prié et ainsi de suite. À l'instant où je commence à sombrer, à m'y perdre, je dis minute. Je ne suis pas obligée de comprendre ça. Dieu sait pourquoi. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. J'ai juste besoin de le connaître. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi tant que vous connaissez celui qui sait pourquoi. Amen. Combien d'entre vous aiment essayer de comprendre les choses? Vous savez quoi? Vous perdrez beaucoup de temps dans votre vie dans la confusion. Beaucoup de choses à propos de Dieu sont un mystère. Et un mystère, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Quand vous regardez un film policier, si c'est un bon film, vous devez attendre jusqu'à la fin de la séance. Dieu a beaucoup de mystères et nous devons attendre jusqu'à la fin de la séance. Pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses que je comprends maintenant que je ne comprenais pas pendant que je les traversais. Et j'ai perdu tellement de temps à essayer de comprendre les choses. Et tout ce que ça a fait, c'était de me distraire de Dieu. Vous n'êtes pas assez intelligent pour gérer votre vie. Renoncez donc à essayer de comprendre les choses. J'étais accro au raisonnement. Maintenant, j'ai quelques trucs ici aujourd'hui pour m'aider dans mon message. Je vais donc vous raconter une histoire qui est dans le livre ici. C'est l'histoire de la robe rouge. Peut-être que vous la connaissez, peut-être pas, mais je vais la raconter de nouveau. J'ai acheté cette robe il y a probablement 27 ans. Et elle était nouvelle. Je l'ai trouvée très jolie. Elle m'a en fait tellement plu que j'ai acheté une taille trop grande pour moi parce qu'il n'avait pas ma taille. J'ai acheté des boucles d'oreilles qui vont avec. Je l'ai prise à la maison, je l'ai accrochée dans ma penderie. Je l'admirais chaque fois que je passais par là. C'est une si jolie robe. Mais je n'ai jamais senti que c'était la bonne journée pour la porter. Un jour, j'étais dans ma penderie et je priais pour une dame qui était bénévole dans l'une des réunions que j'ai faites à Saint-Louis à l'époque. Elle s'appelait Ruth Ann. J'ai dit, « Seigneur, Ruth Ann est une bénédiction. Que pourrais-je faire pour bénir Ruth Ann ?» Eh bien, à l'instant, mes yeux tombèrent sur la robe rouge. Et j'ai pensé, « Je ne peux pas lui donner cette robe, elle est nouvelle. » Voici comment ça marche. J'ai su ici, sans parole, la voix de la conscience est souvent sans parole. Elle est dans le savoir. Comment puis-je bénir Ruth Ann? Oh. La vérité est que je ne voulais pas donner ma robe, donc le diable m'a aidé. Il s'est précipité pour m'aider. Tu ne peux pas donner cette robe, elle est nouvelle. Eh bien, qui dit qu'on ne peut pas donner les choses nouvelles? À l'époque, j'étais encore comme, je ne donnais pas beaucoup, je donnais un peu et je donnais quelque chose. Si je n'en avais plus besoin, mais certainement pas si je le voulais encore. Et j'ai fini par apprendre que ce n'est même pas donné. Dieu m'a finalement dit, pourquoi tu n'arrêtes pas d'agir comme si tu donnais et comme si tu étais généreuse? Quand tu envoies ces trucs aux pauvres, remercie-les pour t'en avoir débarrassé, car tu ne les veux plus de toute façon. Vous commencez vraiment à donner quand vous commencez à vous débarrasser des choses que vous aimez. Wouhou! Restez avec moi, n'allez nulle part. Restez ici. Donc, ça m'étonne que par le raisonnement, car j'ai raisonné que Dieu ne pouvait pas me demander de donner cette nouvelle robe, et puis j'ai pensé à ce que j'avais payé pour l'acheter. Et puis j'ai même pensé aux boucles d'oreilles rouges et argent qui allaient avec que j'avais acheté. Donc croyez-moi, il n'a pas fallu plus de 30 secondes. Dieu m'a parlé et je m'en suis dissuadée. Et je me suis allée jusqu'à penser, tu sais, c'est le diable qui essaye de te prendre tout ce que tu aimes. Donc j'ai pris un mot de Dieu, je l'ai transformé en une menace du diable. Et j'ai désobéi à Dieu par le raisonnement. Je ne crois pas que nous savons à quel point Dieu veut être impliqué dans notre vie de tous les jours, à quel point il veut nous mener et nous guider, et à quel point notre vie peut être passionnante et pleine de vie si nous sommes vraiment menés par le Saint-Esprit et si nous nous libérons de nos têtes puantes. Arrêtez d'essayer de tout comprendre. Donc, quelques semaines se sont écoulées. Je n'ai plus pensé à la robe rouge. Quelques semaines se sont écoulées et j'ai fait une erreur. J'ai prié pour Ruth Ann à nouveau dans la même penderie. C'était Dieu qui m'a mis Ruth Ann sur le cœur. Ce n'était même pas mon idée. Et il a fait ça quand j'étais dans la penderie parce qu'il y avait quelque chose qu'il voulait que j'utilise pour la bénir. C'était, vous savez, un petit dressing room. Je m'habillais là tous les matins. Je suis allée à la réunion de nouveau. « Oh Dieu, bénis Ruth Ann. Comment puis-je bénir Ruth Ann ?» Question idiote, encore une fois. Eh bien, j'ai su que je me suis fait avoir. À ce moment-là, j'ai su, bon, ce doit être vraiment de Dieu. J'ai même dit au Seigneur, vous savez combien nous aimons converser avec Dieu. J'ai dit, oh, je ne l'ai même pas encore porté. Et puis, la chose à laquelle j'ai pensé était, je ne l'ai même pas acheté pour moi. J'ai acheté sa taille et non pas la mienne. Elle n'était jamais la mienne pour commencer. Amen. Et c'est pourquoi je n'ai pas pu la porter. Vous savez, quand Dieu me dit, et j'ai appris cela, quand Dieu me dit de donner quelque chose et que je le garde, je ne peux plus en profiter par après. Il n'y a pas d'onction dessus pour moi. Une fois que Dieu me dit de le donner et que j'essaye de le garder, il deviendra une source de condamnation pour moi chaque fois que je le vois. Donc, oui, j'ai finalement donné la robe à Ruth Ann. Et des années plus tard, Ruth Ann a fait partie de notre personnel et elle a porté la robe rouge. Et vous savez, la robe rouge est devenue une telle histoire dans notre ministère que nous l'avons maintenant dans les archives des accessoires au bureau. Donc pour vous, nous avons tiré la robe rouge et nous l'avons apportée avec nous jusqu'ici, à Saint-José. Et voici la chose que je veux vous faire comprendre. Maintenant, je pense, mais comment ai-je jamais pu aimer cette robe? mais qu'est-ce que j'allais faire de cette robe? Je ne la porterai même pas à une exposition canine. Donc, voici la chose. Cette chose qui a maintenant au moins probablement 25 à 27 ans, j'ai désobéi à Dieu à cause de ce chiffon qui n'est absolument rien pour moi maintenant. C'est là. Fais une pause et réfléchis calmement à ça. Amen. Dans Jacques 1, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement. » En vous trompant vous-même par des raisonnements qui sont contraires à la vérité. C'est un gros problème quand on dit « Eh bien, je sais que je devrais faire ça, mais… » Allez maintenant, restez avec moi. « Je sais que je ne devrais pas faire ça, mais… » Prenons quelque chose aussi simple que « Eh bien, je sais que je ne devrais pas manger ça, mais… » Vous ne voulez pas que je parle de ça, mais je vais en parler de toute façon… car c'est moi qui commande et je parle de ce dont je veux parler. Je sais que je ne devrais pas boire 6 bouteilles de soda tous les jours, mais je sais que je devrais m'exercer, mais je sais que je devrais aller me coucher, je dois dormir, mais vous savez ce que nous faisons? Nous disons, je sais ce que Dieu me dit de faire, mais voici mes raisons pour ne pas le faire. Amen. Et puis, nous nous retrouvons ici. Je ne sais pas quel est mon problème. Mince alors, je me sens tellement mal. Dieu, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin de quelqu'un qui vienne prier pour moi. Je ne comprends pas pourquoi je me sens tellement mal. Comprendre n'est pas aussi difficile que ça si vous commencez à écouter Dieu. Je ne saurais vous dire combien je me sens mieux qu'avant, car maintenant, je vais au lit la nuit. J'ai supprimé un tas de trucs dans mon programme. J'ai appris à dire non. Je veux aider les gens, mais je ne veux pas qu'ils me rendent folle. Je ne veux pas perdre la raison. Je ne veux pas que vous soyez sains et intacts et opérationnels et que je me retrouve à moitié morte quelque part pour n'avoir dit non à personne. C'est incroyable, les quelques ajustements que vous pouvez faire. Si vous écoutez le Saint-Esprit, cela apportera tant de grands avantages dans votre vie. Je dois passer au point suivant. Ne vivez pas dans la confusion, ce n'est pas normal pour un croyant. Un des exemples que j'ai dans ce livre concerne mon Benjamin Dan qui aura 33 ans en décembre. Et oh Dieu, j'ai perdu tellement de temps. Quand mon Benjamin était petit garçon à me demander s'il allait survivre. Il détestait l'école. Il n'aimait pas tout ça. Non, mais je me suis donc réjouie quand ce garçon a fini le lycée. Et l'université n'était même pas quelque chose dont nous aurions osé parler. Parce qu'il n'aimait absolument pas l'école. Il n'aimait pas tout ça. Il a eu du mal à apprendre de la manière conventionnelle. Eh bien, devinez quoi? J'ai perdu tout ce temps car maintenant il est le directeur général des ministères de Joyce Meyer. Vous pouvez donc vous épargner beaucoup de temps et ne pas vous soucier de l'avenir de vos enfants et dire « Dieu, je ne sais pas quel est ton plan, mais je crois que tu as un plan. » Non, mais vous savez, j'avais une fille. Je pensais « Comment cet enfant va quitter la maison et survivre ? Elle ne peut pas trouver ses chaussures le matin. Que va-t-elle devenir sans moi ?» Et vous voulez savoir le plus drôle ? C'est elle, d'entre mes 4 enfants, qui fait toutes mes courses et s'occupe de moi et fait mes valises pour ses voyages pour s'assurer que toutes mes affaires sont bien organisées. Donc celle qui ne pouvait pas s'occuper d'elle-même s'occupe maintenant de moi. Allez, il y a de l'espoir pour vos enfants. Ne perdez pas votre temps à essayer de tout comprendre tout le temps. Maintenant, un esprit anxieux et soucieux n'est pas normal. Vous savez ce qui est normal pour un croyant? La paix. Oh, c'est notre ambiance normale. C'est en fait l'ambiance du ciel. C'est précisément l'ambiance où nous sommes censés vivre. Eh bien, l'ambiance spirituelle, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi prier si nous continuons à nous inquiéter? C'est un effort inutile. Si vous allez vous inquiéter, ne priez pas. Quand j'enseignais sur ne pas s'inquiéter, j'en suis arrivée au point où j'ai pensé, « Seigneur, c'est inutile d'enseigner sur ne pas s'inquiéter car les gens s'inquiéteront. » J'ai écouté les messages sur ne pas s'inquiéter et je me suis inquiétée. J'ai enfin cherché la face de Dieu et j'ai étudié et j'ai dit, « Quand les gens vont-ils cesser de s'inquiéter ?» Et voici ce que j'ai appris. « Je peux me tuer à vous répéter de ne pas vous inquiéter, mais vous allez le faire jusqu'à vous rendre enfin compte que c'est inutile. » Cela n'aide pas votre problème et ne le résout pas. Ce que nous faisons, c'est de dire, je crois que si je pense à ça assez longtemps et que je m'inquiète pour ça, j'aurai une solution. Ça ne marchera pas. Parfois, j'apporte un fauteuil à bascule à mes sermons. S'inquiéter ressemble à se balancer sur ce fauteuil. Il vous occupe, mais ne vous mène nulle part. À la fin de la journée, vous serez toujours dans le même endroit, allant et venant, allant et venant, allant et venant. Et je dirais que l'inquiétude est un problème énorme pour la grande majorité des gens. Vraiment. Est-ce que je m'inquiète, moi? Oui, il y a des moments où je m'inquiète, mais croyez-moi, définitivement pas comme avant. Dieu m'a aidé à faire du chemin. Je ne suis pas là où je devrais être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais autrefois. Je fais des progrès. Et vous pouvez arriver au point où vous ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes inquiet, pensez simplement à autre chose et pensez à autre chose et pensez à une bonne chose et... Dites à haute voix, ça ne va pas m'aider, ça ne me servira à rien, c'est inutile, c'est une perte de temps. Combien d'entre vous croient que vous valez plus qu'un oiseau pour Dieu? Vous croyez que vous valez plus qu'un oiseau pour Dieu? Eh bien, nous savons ce que Matthieu 6 dit, regardez les oiseaux. Ils ne s'inquiètent pas, ils ne sont pas frustrés, ils ne se font du souci pour rien du tout et pourtant Dieu les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus? Qu'un oiseau? Pourquoi perdre le temps à vous inquiéter pour quelque chose qui se passe aujourd'hui, car demain vous aurez quelque chose de nouveau auquel vous pensez, si vous le voulez? Prions donc, et croyons vraiment quand nous prions, que Dieu nous écoute, et c'est une des choses qui m'ont vraiment aidée. Vraiment, j'en suis arrivée au point où je crois vraiment quand je prie que Dieu m'écoute, et qu'il fera toujours ce qu'il faut faire là-dessus, et cela en son temps. Et si ce n'est pas mon temps, il faudra que j'en sois satisfaite, car mon chagrin ne va pas amener Dieu à se dépêcher. Allez, aidez-moi, je prêche mieux que vous ne réagissez. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Je n'y peux rien, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Si vous pouvez, pensez à autre chose. Ne restez pas tout seul dans une pièce plongée dans l'obscurité. Je crois que nous prenons parfois des jours pour penser à nos problèmes. Oh. Oh Dieu, aide-moi à ne pas m'inquiéter. S'il te plaît, aide-moi à ne pas m'inquiéter. Quand Dave et moi étions beaucoup plus jeunes et que tous nos enfants étaient petits, nous avions beaucoup de problèmes financiers. Nous n'avions jamais assez d'argent. Dave allait jouer avec les enfants et il lui mettait des bigoudis dans les cheveux et il le peignait et il sautillait sur son dos. Et moi, j'étais dans la cuisine avec les factures et la calculatrice. Et je calculais tout et je calculais tout et chaque fois que je calculais, ça ne s'améliorait pas. Je le savais avant de commencer. Nous n'avions pas assez d'argent, nous avions besoin d'un miracle. Mais plus je regardais, plus je me mettais en colère, plus j'avais peur. Chaque fois que je calculais, j'étais plus frustrée et je me fâchais contre Dave parce qu'il jouissait de sa vie. Comment peux-tu jouer avec les enfants quand nous avons tous ces problèmes? Tu dois faire quelque chose. Fais quelque chose. Il disait, que veux-tu que je fasse? Nous faisons confiance à Dieu, nous payons la dîme, nous aimons Dieu, nous obéissons à Dieu de notre mieux, Dieu s'en occupera. Quand est-ce qu'il va s'en occuper? Et que va-t-il faire? Et que vas-tu faire en attendant? Jouer avec les enfants? Apprendre à méditer sur la parole de Dieu est la clé pour renouveler votre pensée et apprendre à penser comme pense Dieu. Et cela signifie tourner et tourner et retourner la parole de Dieu dans votre pensée. Prenez toujours le temps de faire ceci et vivez la relation intime la plus forte que Dieu désire avoir avec vous. Plus vous connaissez sa parole, plus vous vous sentirez proche de lui. Vous commencerez à discerner quand il vous parle vraiment. Vous commencerez à discerner quand une pensée qui vous vient à l'esprit n'a rien à voir avec Dieu et que c'est quelque chose que vous devriez éviter.